Le duel, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va démarrer le retour sur cette semaine particulièrement sombre. C'était jeudi à Paris, marche blanche en mémoire de Mireille Knoll.
Quelques banderoles, quelques slogans, des fleurs devant l'immeuble de Mireille Knoll. Intense émotion pour Micheline Knoll, qui partage plus qu'un nom de famille avec la victime.
Comme Mireille Knoll, j'ai échappé avec ma mère à la rafle du Vel'd'Hiv. J'avais 7 ans. Alors voir ça en ce moment à Paris, c'est insupportable. Ça réactive une grande souffrance.
Sentiment de déjà-vu aussi pour Lassana Batili. En 2015, le jeune homme avait caché des otages dans la chambre froide de l'hypercachère.
Le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est incroyable. On dirait qu'on est en 1948, on est en 2018 quand même. Il faut qu'on se parle, on se dialogue. Pas communauté, pas la religion, tous unis ensemble. C'est ça qui était plus important.
Voilà ce qu'on pouvait entendre dans le journal de France Inter avec ce cortège perturbé. Jean-Luc Mélenchon hué, Marine Le Pen également, qui a défilé encadré par de nombreux CRS. Raphaël Glucksmann, vous y étiez, vous avez participé à cette marche blanche. Quelle est l'impression que vous en gardez ?
Bah, je suis d'accord avec Monsieur Badinter. Le fait principal, ce ne sont pas ces huées, c'est pas la polémique. Le fait principal, c'est d'abord le meurtre de Mireille Knoll, c'est ce destin qui est tragique, qui commence par le Vel'd'Hiv et qui finit par les coups de couteau et le fait d'être brûlé. Et c'est la marche qui incarne une forme de sursaut, une marche où je pense les gens sont venus non pas à l'appel d'une organisation, mais exprimer une solidarité, un recueillement et un non à l'antisémitisme, qu'il soit juif ou pas. Mais la question de ce qui s'est produit, moi, dans l'endroit où j'étais, dans la marche, il n'y avait pas de slogan, ni de pancarte, ni de drapeau. Et il y avait vraiment une forme de dignité impressionnante. Mais la question de ce qui s'est produit ensuite, ça pose la question de ce qu'a produit comme tweet le CRIF en a priori disqualifiant des participants à cette marche.
Et en déclarant notamment que Jean-Luc Mélenchon et que Marine Le Pen n'étaient pas les bienvenus.
Alors moi, je ne mets pas les deux sur un pied d'égalité, puisque au FN, il y a une tradition négationniste et antisémite, qu'il n'y a pas à la France insoumise. Mais de toute façon, ce n'est pas au CRIF de décider qui vient ou ne vient pas à une marche citoyenne contre l'antisémitisme. Et je pense que c'était un contresens absolu et extrêmement regrettable.
Natacha Polony.
Oui, je partage totalement cette vision. Mais comme Raphaël, je pense que je vais commencer d'abord par parler du fond de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui en France et du sens qu'a ce destin de Mireille Knoll et ce que ça nous raconte de la France d'aujourd'hui. Avant d'aller sur la question plus polémique du rôle du CRIF et de la façon dont il s'est comporté, d'une façon qui, moi, me semble absolument stupide et contre-productive. Je pense qu'il est temps qu'il y ait un sursaut. Il est temps. C'est-à-dire que j'ai souvenir, il y a quelques semaines, deux, trois mois, d'une une du Monde sur le nouvel antisémitisme, avec deux pleines pages. Et sur deux pleines pages, à aucun moment, on ne savait quel était ce nouvel antisémitisme.
Mais ça fait des années qu'on parle de ce nouvel antisémitisme.
En effet.
Porté notamment par des populations musulmanes.
Voilà. Et parce que je pense que si on ne pose pas un diagnostic, on s'interdit de répondre, de comprendre ce qui est en train de se passer. Mon premier article en tant que journaliste, c'était à Marianne en 2003 sur la montée de l'antisémitisme dans certains collèges et lycées de banlieue. À l'époque, tout le monde s'en fichait et on était soupçonné d'être raciste si on pointait cette question-là. Il a fallu combien de drames, il a fallu combien de morts pour qu'on se rende compte qu'en France, aujourd'hui, on peut de nouveau mourir parce qu'on est juif. Ce qui est une spécificité, c'est-à-dire qu'il y a eu des morts en France dans les attentats, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine, bien sûr. Mais les seuls qui sont véritablement ciblés pour leur origine, pour leur identité, pour ce qu'ils sont, actuellement en France, ce sont les juifs.
Quand vous appeliez un sursaut cette manifestation, cette marche blanche, est-ce que c'est une forme de ce sursaut que vous appelez de vos voeux ?
Je me réjouis qu'il y ait eu à cette marche blanche, par exemple, Lassana Batili, c'est-à-dire
Héros de l'hypercachère, qu'on entendait tout à l'heure dans le journal.
Quelqu'un qui a risqué sa vie pour des inconnus, quelle que soit leur religion. Et En effet, ça nous raconte qu'enfin la France, dans son ensemble, se sent concernée. Parce qu'il faut se souvenir que quand Ilan Halimi a crevé au fond d'une cave, après plus de 20 jours de torture, ceux qui ont défilé, ceux qui ont protesté, c'était les Juifs. Et les autres ne se sont pas sentis concernés.
Ouais, Raphaël. Moi j'ai le souvenir très marquant d'un malaise extrêmement profond en allant à la marche pour Ilan Halimi, où objectivement, la communauté juive était seule dans la rue. Et je pense que là, il s'est produit quelque chose de différent. C'est-à-dire que l'émotion a largement dépassé, malgré les erreurs du CRIF, la communauté juive, que c'est une émotion collective, une prise de conscience collective, et qu'il y a nécessité, en fait, de dire que Mireille Knoll, c'est notre grand-mère à tous, qu'on soit juif ou qu'on ne soit pas juif. Et que quand on s'attaque aux juifs, eh bien, on s'attaque à la République et à l'ensemble de la collectivité nationale. Et là, je pense que le message est passé et passera. Mais il y a, dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est, oui, il y a un antisémitisme plus répandu dans les populations musulmanes que dans le reste de la population française aujourd'hui, selon les témoignages, les chiffres. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut engager la discussion avec ces jeunes qui peuvent répéter des stéréotypes antisémites. Et il y a une absence de tabou. C'est-à-dire que le reste de la société française, toutes les sociétés...
Comment ça?
Toutes les sociétés ont eu une dose d'antisémitisme extrêmement forte. On va pas dire qu'en Europe, il n'y a pas eu un antisémitisme extrêmement fort, puisque c'est quand même l'Europe qui a produit le génocide. Simplement, après 39-45, il y a eu une forme de prise de conscience imposée du fait que voilà où mène l'antisémitisme, à la mort. Et quand on parle avec des jeunes, il y en a plein qui disent... Des jeunes musulmans, il y en a plein qui disent « mais c'est pas notre histoire, parce que nous, on n'a pas fait de génocide, donc il n'y a pas de tabou ». Et tout l'enjeu, c'est un enjeu d'histoire nationale. C'est-à-dire, c'est la nécessité de comprendre qu'en tant que collectivité, on a tous la même histoire. Et que l'histoire de Mireille Knoll, elle nous parle à tous. Et que donc le message universel de l'histoire européenne concerne tout le monde, et que tout le monde doit se l'approprier, tout le monde peut se l'approprier, tout le monde doit se l'approprier. Et comment on parvient à cela? Je pense qu'on parvient à cela justement en montrant que Mireille Knoll est notre grand-mère à tous, que cet acte nous concerne tous, et en faisant l'inverse, en gros, et c'est pour ça que c'est extrêmement regrettable, de ce qu'a fait le CRIF.
Je pense qu'il faut y ajouter une autre dimension, qui est la question assez vertigineuse de savoir où commence l'antisémitisme, puisque c'est cela qui est effarant, c'est qu'il y a débat. Et il y a débat sur un point assez important qui était déjà rigoureusement le même au moment de la mort d'Ilan Halimi. C'est-à-dire le fait que les motivations de Youssouf Fofana et de tous ceux qui étaient autour, c'était de prendre ce garçon parce qu'il était juif et que les juifs ont de l'argent. Et il y a eu débat à l'époque pour savoir si c'était de l'antisémitisme que de penser ça. Souvenez-vous. Et c'est ce qui a ensuite été reproduit. Et dans le cas de Sarah Halimi. Alors là, c'est une variante. C'est-à-dire que c'est l'idée que parce que le meurtrier était fou, il a été interné en hôpital psychiatrique, eh bien, ça n'était pas un crime antisémite. Alors sur le premier cas, je pense qu'il faut absolument lire le livre de Morgan Sportes tout de suite. Il est allé interroger tous les acteurs de cette histoire d'Ilan Halimi, 27 personnes étaient au courant, 27 personnes qui ne sont pas allées prévenir la police, qui n'ont rien fait. Et le récit est glaçant. Mais surtout, il montre combien, en fait, cette espèce de poncif, les Juifs ont de l'argent, qui est totalement intégré, et que moi j'ai retrouvé quand je suis allée interviewer des jeunes quand je faisais mes enquêtes, et qui m'expliquaient que bon, dire « oh, fais pas ton juif pour faire pas ton radin », c'était normal. Et j'entendais même des professeurs qui disaient « oui, mais non, mais c'est une façon de parler chez les jeunes ». Voilà, bon, ça, faire prendre conscience que c'est le début de l'antisémitisme et que c'en est profondément, mais que vient s'y ajouter ensuite, et Morgan Sportes le montre très bien, le consumérisme, le ressentiment contre la société qui ne nous donne pas ce qu'on devrait avoir,
etc. Mais tout ça se mêle. Il y a un immense pas à franchir pour arriver à la barbarie, à la torture.
Bien sûr, sauf qu'au départ, il y a ça.
Mais c'est intéressant, dans le cas d'Ilan Halimi, c'est que ce ne sont pas des djihadistes. C'est pas l'islamisme en tant qu'idéologie, c'est des stéréotypes extrêmement répandus, en fait, qui sont des stéréotypes classiques sur les juifs, et qu'on a réussi plus ou moins à détruire après 45. Mais c'est intéressant, pourquoi ? Parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires qui assumaient le fait que le meurtrier de Mireille Knoll, par exemple, était islamiste. Ce qui semble ne pas être le cas, et ce qui nous permet aussi de comprendre qu'on peut, bien sûr que le djihadiste est antisémite, mais l'antisémitisme est beaucoup plus vaste que l'idéologie djihadiste ou terroriste. Et c'est donc à ces clichés qu'il faut s'attaquer, qu'il faut répondre, et ça c'est un effort collectif. Et encore une fois, moi je pense qu'on le fera en autorisant la possibilité de l'identification collective, commune, à la fois Mireille Knoll comme notre grand-mère et à l'histoire de l'Europe comme notre histoire à tous. Et ça, c'est un effort national qui forge une conscience collective et un peuple.
Natacha.
Je pense que ce que vous dites là est absolument essentiel parce que je me suis, pour ma part, heurtée très souvent dans des débats sur, par exemple, l'enseignement de l'histoire à cette question-là. C'est-à-dire qu'on me répondait quand je parlais récit national qu'il y avait des jeunes gens, des populations en France qui n'avaient pas vécu ce récit, qui donc n'étaient pas concernés par ce récit, ça n'était pas leur histoire et donc il ne fallait pas les renvoyer à cela parce que c'était oublier leur propre histoire. Or, je pense justement que le principe de l'intégration qui permet que nous partagions tous les enseignements de cette histoire passe par l'idée que même si ce n'est pas l'histoire de nos ancêtres, c'est notre histoire commune parce qu'elle nous apprend et elle nous oblige. Donc en effet, il faut partager ces récits qui nous permettent de savoir dans quelle société nous voulons vivre aujourd'hui.
Mais il y a aussi le respect de la vie humaine.
Ma famille vient d'Europe de l'Est. La colonisation ne touche absolument pas ma famille. Pourtant, quand j'apprends la colonisation, eh bien, j'apprends l'histoire de France qui est celle de un pays colonisateur. Et donc, je me sens absolument, moi, concerné par la colonisation, alors même que je n'ai absolument aucune relation familiale ou d'origine avec le moindre projet colonisateur. Et donc, c'est ça, c'est cette possibilité d'identification symbolique à un récit collectif. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, bien sûr, sur le génocide des Juifs, mais c'est aussi important sur la colonisation, c'est aussi important sur l'esclavage. C'est important qu'on ait, comme ça, cette capacité à universaliser. Et c'est ça, l'enjeu. C'est, moi, je veux dire, je suis allé à cette marche en tant qu'universaliste, en tant que personne qui était héritier d'une histoire commune française et qui portait des valeurs humaines universelles.
Question naïve, pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il été chahuté ?
C'est toute la question qu'il faut poser inlassablement au CRIF. Parce que qu'on puisse considérer qu'il y a dans les franges de la France insoumise ce que certains appellent des islamo-gauchistes, c'est-à-dire des gens qui, pour des raisons de, on va dire, d'excuses sociales et idéologiques, ne condamnent pas forcément l'antisémitisme ou le radicalisme quand ils viennent de populations qu'ils considèrent comme des populations opprimées.
C'est-à-dire enfin, cette là, espèce Jean-Luc d'idée. Mélenchon était là présent.
Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, n'est absolument pas dans ce genre de choses. Il peut y avoir aux franges de son parti, mais lui n'a jamais tenu le moindre propos qui puisse poser problème. Deuxième chose, on peut tout de même rappeler qu'il est totalement, que c'est la base de la pensée que de pouvoir combattre l'antisémitisme tout en critiquant profondément et vertement la politique actuelle de l'État d'Israël. Et je pense qu'il est profondément sain de le faire. Et donc, si le CRIF confond les deux, le CRIF, dans ces cas-là, prête le flanc et construit de l'antisémitisme, et je pense que c'est une erreur gravissime. Mais
Raphaël, il y a une avant critique, d'accueillir notre invité et d'ouvrir le débat.
D'abord, je trouve que c'est absolument scandaleux de ne pas tolérer Jean-Luc Mélenchon à une marche républicaine contre l'antisémitisme. C'est la première chose à dire, quels que soient mes désaccords par ailleurs avec Jean-Luc Mélenchon. La deuxième chose, c'est effectivement, on peut reprocher à certains de faire une confusion entre leur antisionisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire de passer de l'un à l'autre. Mais alors, si on leur reproche cela, ce que fait le CRIF en ayant raison certaines fois, eh bien, on ne fait pas soi-même la même confusion. C'est-à-dire qu'il y a un problème. On organise une marche. Cette marche n'est pas une défense de l'État d'Israël, c'est une défense des Juifs de France. C'est quand même quelque chose de diamétralement opposé. Et moi, qui ne peux pas être suspecté d'antisémitisme, je porte une critique du gouvernement de Netanyahou, que je trouve radical, et qui me semble être un gouvernement de droite et d'extrême droite. Et donc, faire la confusion des deux, c'est desservir la lutte contre l'antisémitisme.
Et c'est construire, c'est construire une forme de communautarisme qui est le contraire du message qui doit être porté pour que, en effet, l'antisémitisme devienne quelque chose que nous combattrons tous ensemble, quelles que soient nos origines.
Mais c'est ça qu'il faut restaurer, c'est la capacité à l'universalisme à dépasser ces communautés-là.